Il est 22h, le journal.
Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Benjamin Netanyahou en terrain conquis aujourd'hui. Le Premier ministre israélien est en visite à Washington, reçu par Donald Trump. Pour le président américain, la solution à deux États n'est pas la seule possible pour régler le conflit israélo-palestinien. Les explications de Frédéric Carbone dans ce journal et nous serons également avec une spécialiste du Moyen-Orient, Agnès Levallois. Le CETA, adopté à une très large majorité par le Parlement européen après des débats houleux, l'accord de libre-échange entre l'Union et le Canada continue de diviser. Visé dans l'hémicycle. Reportage d'Ania Vogel. François Fillon veut recentrer sa campagne sur le fond. Le candidat de la droite est en meeting à Compiègne sur le thème de la sécurité. Il veut baisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans, une proposition de Nicolas Sarkozy lors de la primaire à droite. Une visite entre amis. Donald Trump reçoit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour une première rencontre officielle. Après une entrevue dans le bureau ovale, les deux chefs d'État ont jeté les bases d'un partenariat plus étroit qu'il ne l'était sous l'administration Obama. Le président américain a donné l'impression que Benjamin Netanyahou pouvait mener la politique qu'il souhaitait. Les États-Unis ne sont plus là pour lui faire la leçon, Frédéric Carbone.
Benjamin Netanyahou est accueilli un ami personnel autant qu'en chef d'État étranger et tout est mis en scène pour le montrer. Melania Trump est là pour la première fois à la Maison Blanche et Donald Trump fait se lever et saluer Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien. Dans cette logique, évidemment, pas question de contrarier un ami. Le président américain dénonce donc l'accord sur le nucléaire iranien. Il critique son prédécesseur sur le refus de mettre un veto à la résolution des Nations Unies condamnant les colonies et il confirme que les États-Unis sont flexibles sur la solution à deux États. Je considère deux États ou un État et j'aimerais la solution que les deux parties choisiront. Je peux vivre avec les deux. Le ton est léger, il ne s'agit pas d'un renoncement formel à un demi-siècle de préalable pour une solution pacifique, mais c'est une façon de laisser clairement la main à l'ami Netanyahou. Donald Trump reprend d'ailleurs à son compte les préalables mis par Israël en demandant aux Palestiniens de renoncer à leur culture de la haine et en exigeant la reconnaissance de l'État d'Israël. À une seule reprise, il évoque des compromis israéliens sur la construction de colonies, mais c'est avec un large sourire complice. La page Obama de l'exigence vis-à-vis d'un allié aura été tournée en quelques minutes.
Frédéric Carbone à Washington pour France Culture. Nous sommes avec Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout à l'heure, en conférence de presse, Donald Trump a appelé Israël à la retenue sur l'expansion des colonies. Il y a quelques jours, il a dit que la colonisation n'était pas une bonne chose pour la paix. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de position sur ce sujet ?
Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de changement de position sur la colonisation. Il a utilisé des mots un peu moins raides que ceux qu'il avait utilisés pendant la campagne, mais on est quand même sur le fond, sur une acceptation par les États-Unis de la poursuite de la colonisation. Quand il parle simplement, quand il appelle à une retenue, on voit bien que ça ne remet pas en question le fait que depuis quelques jours, Israël a annoncé la création de centaines, même de milliers de nouvelles unités dans les colonies actuelles. Donc, je ne vois pas véritablement d'évolution en tous les cas ou d'atténuation des propos qu'il avait tenus.
Alors Benjamin Netanyahou lui a répondu tout à l'heure lors de la conférence de presse que la question des colonies n'était pas au cœur du conflit avec les Palestiniens. Il reste ferme, lui.
Oui, mais il est dans sa logique, c'est-à-dire qu'il a un président des États-Unis à ses côtés qui le soutient, donc il y a des propos donc quand même très complaisants à l'égard de la colonisation. Donc lui va continuer dans cette voie-là, d'autant plus qu'il est doublé aujourd'hui, Netanyahou, sur sa droite et son extrême droite, avec le camp des colons qui est plus fort que jamais et qui a exigé de lui, avant qu'il parte à Washington, qu'il ne lâche rien sur la question de la colonisation. Donc Netanyahou, pour sauver aussi sa position en tant que Premier ministre d'Israël, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment dire aux colons « je ne vous ai pas trahi et la colonisation va pouvoir continuer ». Alors que l'on sait très bien pour qui étudie ce conflit depuis maintenant des dizaines d'années que la colonisation est au cœur du conflit israélo-palestinien, du conflit entre Israéliens et Palestiniens, et que tant qu'il n'y aura pas un véritable arrêt de cette colonisation, aucun processus de paix, aucune négociation ne peut véritablement s'engager entre les deux.
Alors la Maison-Blanche n'est plus arc-boutée sur la solution à deux États. Ce n'est pas la seule solution possible, a dit Donald Trump tout à l'heure. Ça devrait justement satisfaire la frange dure du gouvernement de Netanyahou.
Absolument. Donc, une fois de plus, hein, il y a eu les propos sur la mobilisation et la question sur les deux États est aussi une question qui était brandie par l'extrême droite israélienne en disant qu'il fallait que Netanyahou se dégage de cette position sur les deux États, qui est la position reconnue par la communauté internationale, qui n'a de cesse que d'appeler à la création de ces deux États. Donc, aujourd'hui, par les déclarations de Trump, on voit que celui-ci revient sur ce qui était aussi un fondement de la position non seulement de la communauté internationale, mais également des États-Unis, qui ont toujours défendu ce principe de deux États. Et donc, si ça n'est pas la solution, je voudrais bien savoir ce que Trump a dans la tête et qu'est-ce qu'il croit être possible comme une solution de ce conflit israélo-palestinien s'il ne remet pas en cause la poursuite de la mobilisation et s'il remet en cause cette idée de deux États. Je ne vois pas d'où peut venir la solution si ces deux portes-là sont fermées aujourd'hui de sa part.
Est-ce que Donald Trump a justement des solutions pour ce conflit ou est-ce que c'est juste du bluff, si je puis me permettre ?
Écoutez, on voit bien qu'il est depuis le début en relations internationales et en particulier sur ce dossier israélo-palestinien très engagé du côté d'Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il remet complètement en question finalement le droit aussi international puisque la colonisation va complètement à l'encontre du droit international et Trump en faisant ses déclarations finalement s'affranchit complètement du droit international qui normalement devrait être la base d'un règlement entre Israéliens et Palestiniens. Donc je ne crois pas qu'il ait de plan en tête, si ce n'est de laisser faire Israël et si ce n'est de permettre à Netanyahou de pouvoir rentrer un peu plus renforcé en Israël et de continuer finalement une politique qui est une politique de surtout aucune négociation possible et de laisser à l'extrême droite en Israël la capacité finalement à pouvoir aller dans le sens d'une annexion de ce qu'on appelle la zone C dans les territoires palestiniens, qui est une zone qui normalement doit faire l'objet de négociations dans le cadre d'un règlement de ce conflit. Or aujourd'hui, l'extrême droite souhaite finalement l'annexion pure et simple de cette fameuse zone C qui représente pratiquement 60% des territoires palestiniens. Et donc peut-être que la solution de Trump finalement c'est ça, c'est-à-dire de mettre une croix définitive sur un État palestinien et de laisser Israël continuer non seulement à poursuivre les colonies dans les territoires, mais également, pourquoi pas, aller jusqu'à l'annexion de cette zone C qui normalement devrait être négociée et revenir aux Palestiniens.
Est-ce que ça veut dire que les États-Unis se désengagent totalement du conflit israélo-palestinien en laissant faire Israël ?
Oui, ils les engagent, mais j'irai même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en soutenant comme ils soutiennent Israël, ils laissent les Israéliens, en tous les cas le gouvernement de Netanyahou, parce que je pense que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec cette politique, mais en tous les cas, le gouvernement de Netanyahou, il lui donne carte blanche pour faire absolument ce qu'il souhaite faire. Et quand on s'intéresse à une des déclarations aussi de cette conférence de presse, quand Trump dit qu'il aimerait voir l'ambassade des États-Unis installée à Jérusalem, en disant qu'il examine très soigneusement la question, on peut être aussi inquiet sur un dossier qui, lui, est un dossier en plus symbolique très fort et qui peut mettre le feu aux poudres d'une façon très rapide, non seulement dans les territoires palestiniens, mais dans l'ensemble du monde arabe. Donc on a un Trump qui laisse vraiment complètement carte blanche à ce gouvernement en se présentant comme étant celui qui veut aider au règlement de ce conflit, mais je ne vois pas à partir des bases qu'il a évoquées là, comment on peut envisager le règlement à ce conflit. Évidemment, les réactions palestiniennes ne vont pas manquer d'être très très fermes. Et avec un point qui avait été brandi par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui avait été de dire que s'il y avait un soutien aussi fort des Américains à Israël, il envisageait la rupture de la coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens, qui est la seule coopération aujourd'hui qui fonctionne entre les deux.
Merci Agnès Levallois d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et enseignante à Sciences Po. Et puis on vient de l'apprendre, Donald Trump perd un nouveau membre de son gouvernement. Le secrétaire d'État au travail a retiré sa candidature. Andrew Pusder a été forcé de se retirer, plombé par des révélations sur d'anciens épisodes de sa vie personnelle. Il a notamment récemment reconnu avoir employé au noir une femme de ménage en situation irrégulière pendant plusieurs années. Le CETA obtient le feu vert du Parlement européen. Il a ratifié aujourd'hui ce traité de libre-échange entre l'Union et le Canada. Après un vif débat, des opposants au traité ont fait entendre leur voix dans l'hémicycle. Parmi eux, les socialistes, les écologistes et l'extrême droite. Mais les eurodéputés ont voté pour à 408 voix. Reportage à Strasbourg d'Ania Vogel.
En ces temps d'incertitude, de protectionnisme croissant, notamment côté américain, le CETA va permettre de réguler nos échanges commerciaux conformément aux normes européennes, dans le cadre d'un accord progressiste avec un pays allié. Les arguments de la Commission ont convaincu, 408 voix contre 254 et 33 abstentions, victoire logique pour l'eurodéputé Tokia Saifi du Parti populaire européen.
Cet accord est un accord équilibré, il est bon. Pour les secteurs du lait, nous avons les indications géographiques protégées, c'est nouveau. Tous ces secteurs sont très satisfaits, donc il faut maintenant expliquer pourquoi il y a des secteurs qui sont inquiets et les rassurer. Et nous avons écrit à Juncker qui nous a répondu aujourd'hui que la Commission puisse actionner, s'il y a une perturbation du marché, des clauses de sauvegarde très rapidement. Donc nous n'avons pas signé cet accord à n'importe quel prix.
Les opposants évidemment sont déçus, dénoncent les risques pour la santé, l'environnement, les droits sociaux, la main tendue aux multinationales, les Verts, l'extrême droite et l'extrême gauche, et même certains socialistes, notamment français. Virginie Rosière.
Maintenant c'est aux États membres, aux parlements nationaux de jouer leur rôle. On a quand même toujours de très très grosses incertitudes, bien sûr sur les bénéfices de cet accord, autant sur le plan économique que sur les impacts sur l'emploi. On n'a aucune étude qui démontre vraiment des bénéfices, et puis après on a une incertitude juridique de compatibilité avec le droit européen, et puis en France, compatibilité avec la Constitution française, donc le combat continue.
Le CETA doit maintenant être ratifié par les parlements nationaux et régionaux, ce qui est loin d'être gagné. En attendant, une grande partie du traité va entrer en vigueur de manière provisoire début mars ou début avril.
Longue journée pour François Fillon aujourd'hui. Le candidat de la droite englué dans l'affaire sur les emplois fictifs de sa femme a cherché du soutien du côté de Nicolas Sarkozy. Il a déjeuné avec l'ancien chef de l'État. Ça s'est très bien déroulé dans une ambiance chaleureuse, a-t-on dit du côté de son entourage. Le candidat de la droite a ensuite quitté Paris pour Compiègne pour un meeting sur le thème de la sécurité. Avant d'aller à la tribune, il est revenu sur l'affaire Théo en indiquant que la lumière doit être faite sur son interpellation, mais rien ne justifie les émeutes. Président de la République, je soutiendrai les policiers, a-t-il ajouté. Dans son programme sur le volet sécuritaire, il veut entre autres construire 16 000 places en prison, généraliser l'armement des policiers municipaux et il a annoncé, Karine Bécard, vouloir abaisser la majorité pénale à 16 ans.
Peut-être que le déjeuner d'aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy a inspiré François Fillon. En tout cas, il faut savoir que cette majorité pénale dès l'âge de 16 ans est une proposition que l'ancien président avait dans son propre programme de campagne au moment de la primaire. Et depuis des semaines maintenant, les sarkozystes, mais ils ne sont pas les seuls, exercent quelques pressions sur le candidat pour qu'un certain nombre de leurs mesures soient reprises désormais par François Fillon. François Fillon qui a donc décidé ce soir de parler de sécurité, c'est le thème principal de ce déplacement et de ce meeting à Compiègne. Autrement dit, le candidat fait le pari de recommencer à pouvoir s'exprimer sur le fond tout en espérant être à nouveau audible. Ce n'est pas si simple. À l'entrée du parking du meeting, un comité d'accueil attendait François Fillon avec des casseroles, des pancartes, des banderoles du Parti communiste français essentiellement. Donc la campagne tente de reprendre, mais tout cela reste extrêmement fragile.
Karine Bécard au meeting de François Fillon à Compiègne. Les négociations sur l'assurance chômage vont rouvrir. Les syndicats et les partenaires sociaux et les MEDEF se sont mis d'accord aujourd'hui. En juin dernier, le patronat avait fait capoter les discussions en refusant de taxer davantage les contrats courts. Cette fois, le MEDEF et les syndicats espèrent aboutir à un accord d'ici la fin du mois de mars, avant les élections. David Ravier, 4 réunions sont prévues le mois prochain pour cela.
Le patronat et les syndicats sont décidés à boucler en 6 semaines un accord qu'ils n'ont pas réussi à trouver en 2 mois l'année dernière. S'il reste toujours des points de crispation, pour le représentant de la CFTC, Éric Courpotin, il est obligatoire de clôturer les négociations avant le premier tour de l'élection présidentielle.
L'idée, c'est d'arriver, si possible, à un accord fin mars au plus tard. Il faut qu'on ait fini de négocier.
Cette volonté d'agir vite tient dans l'incertitude quant au vainqueur de la présidentielle. Si l'élection était remportée par François Fillon, l'assurance chômage devrait subir une réduction de 10 milliards d'euros pour réaliser des économies. Emmanuel Macron, lui, voudrait supprimer la cotisation de l'assurance chômage pour la transférer vers la CSG, la contribution sociale générale. Dans les deux cas, cela changerait la donne, d'où la volonté des partenaires sociaux comme Denis Gravouille de la CGT d'agir rapidement.
De toute façon, on ne pourra pas négocier pendant la présidentielle. Donc soit on négocie maintenant, avant ou après. Donc pourquoi pas négocier avant pour avoir une convention d'assurance chômage qui stabilise les droits des demandeurs d'emploi et fasse qu'on ne change pas de système tous les deux ans ou tous les ans et demi puisque ça n'arrête pas de changer. Le risque de ne pas trouver l'accord, c'est que du coup, on se retrouve avec certains candidats qui vont vouloir de façon autoritaire baisser les droits des chômeurs. Pour nous, évidemment, ce serait inacceptable. mais ce sera une bataille qu'on sera capable de mener.
Et pour gagner du temps, le patronat et les syndicats vont s'échanger leur premier projet d'accord sur l'assurance chômage à partir de la semaine prochaine.
Un reportage de David Ravier. Le temps pour demain, quelques pluies dans le nord-est et dans le centre. Le ciel sera couvert en Bretagne, sur les Pays de la Loire et en Gironde. Des éclaircies en PACA et sur les Pyrénées. Grand soleil en Rhône-Alpes et en Corse. Il fera le matin entre 4 et 7 degrés sur la moitié nord et entre 8 et 13 degrés sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.